Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous. Comme convenu, je vous tiens informé des publications liées aux activités de la chaire, donc les actes du... Là, ça résonne un peu, c'est ça le problème, parce qu'on m'a signalé qu'il y avait des problèmes d'audition, mais si on met fort, ça a tendance à résonner. Donc, les actes du séminaire de l'année dernière sur l'entreprise viennent d'être publiés. Et même si certains d'entre vous veulent rencontrer les contributeurs, il y a une petite séance de signature ce soir à 17h à la librairie Dalloz, rue Soufflot. Alors, cette page de publicité pouvant être tournée, je reviens où nous en étions restés la dernière fois. J'avais évoqué la figure très célèbre de John Rawls et expliquer son effort pour faire une théorie de la justice qui se fonde sur un calcul originel que ferait un individu quelconque placé en voile d'ignorance, c'est-à-dire ne sachant pas quelle serait la position qui serait la sienne dans l'ordre qu'il contribue à définir. Et de cela, Rawls déduit deux principes. Donc, le principe de liberté, en vertu duquel toute personne a droit à l'ensemble plus étendu de liberté individuelle compatible avec le même ensemble de liberté pour tous. Et le principe de différence, en vertu duquel les inégalités sociales sont légitimes sous une double condition. Première condition, de fonctionner au bénéfice du plus grand nombre. Et deuxième condition, d'être attaché à des dispositions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité des chances. Alors, cette théorie de la justice a connu un très grand succès. Rawls, d'ailleurs, a écrit un second livre à la fin de sa vie où il répond à un certain nombre de critiques qui lui ont été adressées. Il nuance sa théorie. Celle dont je parle ici, c'est la théorie d'origine. Et on doit sans doute une part de ce succès au fait que Rawls a donné à l'économisme un visage humain en autorisant une certaine dose de redistribution des richesses sans toutefois remettre en cause l'anthropologie de l'homo economicus égoïste et calculateur, qui au contraire est au centre de son dispositif. Cette analyse est déconnectée de toute analyse du droit positif, des pratiques juridiques de mise en œuvre de la justice sociale, et elle est également vide, c'est une des choses dont Rawls était au fond assez satisfait, de toute interrogation sur les fondements dogmatiques du juste et de l'injuste dans une société donnée. C'est pourquoi cette théorie se présente, c'est une expression de Pierre Legendre qui a des mots assez sévères pour la théorie de Rawls, comme un jeu logicien plaqué sur la réalité humaine, politique, sociale et accessoirement subjective. Fin de citation. En fait, la même chose, la même critique pourrait être adressée aux nombreux travaux qui se sont situés dans le sillage de la théorie de Rawls pour en critiquer ou en améliorer certains aspects, qui participent tous de la même démarche, qui est une démarche logicienne et procédurale, qui fait abstraction, qui ignore la diversité des expériences historiques de mise en œuvre de la justice sociale. C'est le cas notamment de l'œuvre d'un théoricien du droit très connu et d'un grand esprit, qui est Ronald Dworkin, qui a raffiné la théorie de Rawls pour tenir compte des handicaps. Il lui a ajouté un marché des assurances, lui aussi configuré sous voile d'ignorance et censé assurer une réelle égalité des ressources. Parmi les rares auteurs qui se sont, au contraire, efforcés de penser la justice redistributive à partir de ces pratiques, au lieu de théoriser dans l'absolu, il faut mentionner Michael Walzer et sa théorie des sphères de justice. L'apport de cette théorie de Walzer, dont je recommande aussi la lecture, là nous parlons quand même de grands auteurs qu'il est intéressant de lire. Son apport, c'est de ne pas mettre dans le même sac tous les biens distribués, dans la redistribution, dans une société donnée, mais de distinguer, au contraire, différents types de biens. C'est-à-dire, il y a, certes, dans ce qui anime et motive les êtres humains, la recherche de la richesse économique, mais il y a aussi la recherche de l'amour, la recherche de satisfaction symbolique, de reconnaissance, la recherche de position politique, d'enjeux politiques et de pouvoir. Et il fait observer, Michael Walzer, que chacun de ces types de biens relève de critères de distribution différents. Et l'une des caractéristiques des systèmes totalitaires que pointe Walzer, ça a été de prétendre ramener toute la vie humaine à un unique principe, que ce soit un principe politique, par exemple. Mais dans son dernier Avatar, cet unique principe, c'est un principe économique, sous l'égide du marché total, qui étend la logique du calcul économique à tous les aspects de la vie humaine, y compris à l'usage de la parole, comme on l'a vu avec la théorie de l'efficient breach of contract l'année dernière. Mais cette réduction est grosse d'une déconnexion avec la réalité. C'est un des points que nous avions évoqué dans le séminaire sur l'entreprise. Ce qui anime le chef d'entreprise, le vrai chef d'entreprise, puisque si vous fabriquez, vous dites « je vais faire une entreprise d'édition », c'est généralement que vous aimez les livres. Si vous dites « je vais fabriquer des avions », c'est que peut-être tout petit, vous avez été fasciné par les avions. Alors, bien sûr, et vous allez essayer de faire les meilleurs avions possibles. Donc, la motivation financière n'est pas au cœur de l'entreprise qui vise toujours à créer du neuf, sauf dans le cas d'entreprises purement financières, qui ne se donnent pas d'autres objectifs, et ce sont elles qui sont maintenant en position de commandement, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres objectifs que de cracher du cash, pour employer le vocabulaire en usage. Mais le gain financier est quelque chose qui rend possible le maintien, le développement d'un projet dont le but premier n'est pas forcément d'ordre économique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a chez Walzer cette sensibilité très grande à la diversité des centres d'intérêt et des motivations et à la nécessité d'en tenir compte dans un ordre juste. Il se peut que vous, ce ne soit pas de gagner des fortunes qui vous aient motivé au début de votre vie, mais la gloire. Bon, alors à ce moment-là, ou au contraire, la poésie ou d'autres choses de ce genre. Donc il faut faire en sorte que chacun puisse, toutes ces sphères prises en considération, se trouver dans une situation de bon traitement. Cette approche par Walzer pourrait être rapprochée de celle qui était en France l'approche de deux auteurs importants que sont Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui se sont référés, eux, non pas à la notion de justice, mais à la notion de justification, pour distinguer différentes cités ou ce qu'ils ont appelé des économies de la grandeur. Ils l'ont fait dans un livre qui a eu un succès mérité, qui s'appelle « De la justification, les économies de la grandeur », paru en 1991, et où on trouve une logique assez comparable, toute chose égale par ailleurs, avec la démarche de Michael Walzer. Donc, l'intérêt de ces approches, c'est qu'elles font largement appel à la sociologie et à l'histoire, et elles puisent dans la diversité des cultures. Donc, ce n'est pas des théories closes sur elles-mêmes, mais bien plutôt des méthodes d'investigation qui sont attentives à contextualiser la question de la justice sociale. Et bien qu'elle fasse une faible place aux droits et aux institutions, elle parvient par une autre voie à des conclusions proches de celles qui pourraient être tirées de l'analyse juridique comparée des différentes formes d'État social en Europe. Parce que telle serait la démarche du point de vue de l'analyse juridique pour première approche de la justice sociale, ça devrait consister à étudier et à comparer les réalisations juridiques et institutionnelles qui ont été la mise en œuvre de l'idée de justice sociale. Et on s'apercevrait alors, je ne reviens pas sur ce point, j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale, qu'on trouve deux caractéristiques. D'une part, il y a trois piliers de l'État social et de la justice sociale qu'on va retrouver dans la plupart des États modernes, qui sont un statut protecteur du travail, et ça, ça a plutôt été une invention allemande, le droit du travail, c'est théorisé dès le début du XXe siècle. Le deuxième pilier, c'est des services publics qui visent à donner à toute la population accès à un certain nombre de biens jugés fondamentaux. Et ça, du point de vue juridique, ça a plutôt été une invention française, la théorie des services publics, entre le Conseil d'État et la doctrine publiciste. Et puis le troisième pilier est une invention britannique, dans son principe, c'est la sécurité sociale universelle, qui est le plan Beveridge. Alors, ces trois composantes, donc assurer des conditions d'égalité pour des biens fondamentaux d'accès à toutes les populations, telles que l'éducation, l'accès aux soins, des choses de ce genre, un système de sécurité sociale qui pallie les pertes de ressources, et puis une protection, un statut du travail, on les retrouve dans tous les pays, mais avec des nuances, des modèles culturels et juridiques tout à fait différentes. La manière de concevoir, par exemple, le statut du travail a été très différente entre le modèle allemand, fondé plutôt sur l'idée de communauté, la notion si importante pour les Allemands de Gemeinschaft, donc c'est un emboîtement de communautés les unes dans les autres jusqu'à la communauté nationale. Le modèle anglais, qui a plutôt été pensé comme un marché régulé par la négociation collective. Donc, la démarche anglaise a consisté à dire laissons le législateur et le juge hors de ce champ, mais donnons aux travailleurs les moyens d'avoir une négociation collective des conditions de travail. Bon, c'est un modèle très différent du modèle français, par exemple. Et le modèle français, c'était plutôt le modèle de l'ordre public social, c'est-à-dire d'une intervention de l'État qui introduit des dimensions d'ordre public dans un contrat. Donc, techniquement, nous avons affaire à des montages juridiques différents, qui sont portés par des traditions nationales différentes, mais fonctionnellement, on constatait dans ces différentes expériences, on retrouve toujours la triade que j'évoquais sur le travail, les biens fondamentaux et la sécurité sociale sur le long, qui assure, j'allais dire, le soutien de la vie sur la longue durée par rapport au temps court de l'échange marchand. Voilà ce que vous pouvez dire sur ce premier aspect, première définition la plus classique, la mieux connue de la justice sociale, envisagée comme justice redistributive et principalement centrée sur la redistribution des biens et des richesses. Il y a une deuxième dimension qui a connu un grand succès alors dans la période récente, disons depuis 25-30 ans, qui consiste à mettre l'accent non pas sur l'avoir, quand on cherche à définir la justice sociale, mais sur l'être. C'est-à-dire à dire la justice sociale doit se préoccuper aussi d'une juste reconnaissance des personnes. Et cette démarche a conduit à critiquer les approches abstraites et universalisante qui avait été celle de l'État social de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous en avez eu un exemple d'ailleurs dans le livre sur l'entreprise, vous pouvez lire la contribution de Michael Pior, qui est un chercheur américain de MIT qui connaît bien cette affaire. Il explique dans sa contribution cette montée d'une contestation du caractère abstrait du système de redistribution et la méconnaissance de l'identité propre de certains groupes. En effet, les États-providence et les théories de la justice sociale qui lui sont liées n'ont nullement rompu avec l'ordre démocratique qui était né des Lumières, et c'est un ordre dans lequel les hommes sont envisagés comme des êtres abstraits, armés des mêmes droits, indépendamment de toute considération d'appartenance ethnique ou religieuse. On connaît la célèbre formule de Stanislas de Clermont-Tonnerre, c'est un nom qui résonne, qui en 1789 intervient pour demander la disparition de toute discrimination vis-à-vis des Juifs en France, mais il dit ceci: il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'il ne fasse dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'il soit individuellement citoyen. Il faut méconnaître leurs juges, ils doivent avoir les nôtres, il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre, il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Donc ça, c'est la vision de la Révolution française qui, sous l'égide d'un État abstrait, représentant la nation et l'intérêt général, ne veut connaître que des individus. Et donc, en même temps, c'est une émancipation, une mise à égalité. Alors, qu'avaient ses limites, on y reviendra, parce qu'il y a eu ensuite colonisation, il y avait statut des femmes, il y avait donc, on n'a pas été une rigueur totale avec cet idéal. Mais l'idéal est celui-ci, donc un peuple comme agrégat d'individus soudés par l'État, tous à égalité, et la question des croyances, des origines, est renvoyée exclusivement à la sphère privée. Elle n'a pas à intervenir dans la sphère publique. On dirait, pour le traduire en termes modernes, que c'est un modèle qui est très hostile à toute forme de communautarisme. L'État social n'a pas du tout rompu avec cet idéal d'une égalité abstraite. Et au contraire, il a cherché à le mettre plus complètement en avant, en œuvre, en limitant ou corrigeant les inégalités de fortune. Mais il s'agit, ce faisant, non pas de rompre avec l'idéal d'une société formée de citoyens libres et égaux, mais bien au contraire d'approfondir cet idéal en complétant la citoyenneté politique par une citoyenneté sociale. C'est un thème qui est très présent dans l'œuvre de Jaurès, par exemple. Si on relit Jaurès, il dit, au fond, ce que doit faire le mouvement social, c'est achever ce qu'a commencé la Révolution française. Elle a créé une citoyenneté politique, il faut créer aussi une citoyenneté économique et sociale. Le concept, d'ailleurs, de citoyenneté sociale est dû à un économiste anglais, Thomas Marshall. Dans l'ordre civil et politique, cet idéal a été, je l'évoquais tout à l'instant, pendant longtemps bafoué par le statut minoré accordé aux femmes, d'une part, et d'autre part, aux indigènes des pays colonisés. Ils étaient la contradiction, la violation flagrante, leur statut minoré, des principes affirmés d'une égalité abstraite des citoyens. Et c'est seulement à partir du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire au moment même où la justice sociale s'affirmait comme un principe normatif à l'échelle internationale, que les luttes pour la décolonisation d'une part et les luttes pour l'égalité des sexes d'autre part, je m'entête à parler de sexe, excusez-moi, j'ai été convaincu par Mona Ozouf qui dit que le genre est un cache-sexe. Et l'égalité ont progressivement conduit à étendre le principe d'égalité formelle à tous les êtres humains. Aussi n'est-il pas surprenant que la citoyenneté sociale ait elle-même été conçue en des termes universels et abstraits. Les droits économiques, sociaux et culturels consacrés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l'ont été, comme le dit la Déclaration universelle, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Alors, on ne saurait être plus compréhensif. Cet énoncé est un énoncé dogmatique au sens le plus fort et le plus consciemment normatif du terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous sommes dans la dimension dogmatique du droit en ce sens que l'observation la plus élémentaire d'une assemblée humaine comme la nôtre, c'est qu'il y en a des jeunes, il y a des vieux, il y en a qui sont durs d'oreille et d'autres qui ont l'oreille fine, et il y en a qui sont plus ou moins instruits, plus ou moins riches. Donc nous sommes face à, du point de vue de l'observation sociologique ou économique, à une multitude d'inégalités. Et face à cela, le droit affirme « je n'en tiendrai pas compte », c'est-à-dire le principe sur lequel je vais camper, c'est l'égalité des êtres humains. Cette égalité ne correspond pas à une observation des faits, de l'ordre de l'être, mais on le postule en tant que devoir-être. C'est en ce sens que c'est un énoncé de type dogmatique. Et C'est pour ça que les tentatives de vouloir l'ancrer, par exemple l'égalité dans le génome auquel on a pu assister, sont des impasses, parce que on a commencé à dire que c'est prouvé par le génome. Mais il y a quand même des différences, le génome des hommes et celui des femmes, il y a des XY, XX, enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait pareil. Et puis si la science devait progresser, découvrir des différences génétiques entre les Bretons et les Corses, ça ne serait pas une raison pour céder sur le principe d'égalité. C'est-à-dire que il n'y a pas de base biologique, mais une base dogmatique. Une affirmation, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, sur notre territoire. Voilà, ça ne se discute pas. C'est ça qui est un énoncé dogmatique. Et là, nous en avons un dans cet article 2. Mais évidemment, dans la vie réelle, la langue, le sexe, la religion, la nationalité ne sont pas seulement des sources possibles de discrimination. Ils sont aussi des éléments constitutifs de l'identité des personnes. Nous ne sommes pas au monde de la même façon selon que nous sommes nés hommes ou femmes, par exemple, ou selon que nous avons été élevés dans une culture plutôt que dans une autre. Et cette identité individuelle se construit dans un jeu de miroir avec autrui, c'est la célèbre formule du poète Rimbaud, « je est un autre », donc c'est dans le regard de l'autre ce que se construit sa propre identification, et donc il faut que mon identité soit reconnue pour que j'existe pleinement. Et il ne suffit donc pas, c'est la base, ces nouvelles théories de la justice sociale, de pourvoir aux besoins matériels de l'être humain, pour respecter sa dignité, il faut aussi satisfaire ce besoin de reconnaissance. Ça a alimenté une littérature très importante, je le répète, depuis une vingtaine d'années, ces histoires de lutte pour la reconnaissance. Je vous donnerai quelques références bibliographiques dans un instant. Si le problème surgit dans les sociétés contemporaines, c'est que dans de nombreuses sociétés traditionnelles, cette reconnaissance est inhérente à l'existence d'un ordre hiérarchique qui reconnaît à chacun une place, fût-elle subordonnée. C'est un point sur lequel je vais revenir pendant ce cours en prenant l'exemple de l'Inde, parce qu'il faut avoir en tête ce qui a pu être la représentation d'un ordre juste dans d'autres civilisations que la nôtre. Et donc, si vous avez une société qui repose sur un ordre hiérarchisé, chacun a une place dans cet ordre hiérarchisé, et on considère que c'est ça l'ordre juste. Et dans une telle société, les questions d'incertitude sur la reconnaissance ne se posent pas. Un jeune garçon, ce sont des choses étudiées par les anthropologues dans les systèmes de pensée africains, va passer un certain nombre d'épreuves initiatiques et à un certain âge, on va dire, ça y est, il est passé du côté des hommes. Il est assuré de ce qu'il est. C'est ça, l'épreuve initiatique. Dans les sociétés occidentales, ce que nous disons à nos enfants, tu es ce que tu parviendras à devenir. Ce qui est une situation moins immédiatement rassurante, il faut le reconnaître. Même s'il y a aussi des rites de passage, l'entrée à Normal Sup, des choses comme ça, mais ça concerne là les diplômes jouent certainement ce rôle. Mais ils ne vous assurent pas une place, enfin en tout cas, pour un très grand nombre d'entre eux. Alors, il faut donc s'intéresser un peu, si on veut regarder nos propres systèmes dogmatiques un peu en faisant un pas de côté, à cette représentation de la justice dans des ordres dominés par l'idée de hiérarchie. Celui qui a le plus travaillé et utilisé cette démarche est un grand anthropologue qui s'appelle Louis Dumont, certains d'entre vous connaissent peut-être, et Dumont est un auteur particulièrement intéressant du point de vue du droit comparé parce que il a d'abord été le grand anthropologue de l'Inde moderne et de la société de caste, donc il a écrit un livre qui s'appelle Homo Hierarchicus, qui est consacré aux sociétés de caste, et ensuite il a retourné ce regard anthropologique vers le monde occidental dans un autre livre qui s'appelle Homo Equalis, et qui retrace le développement de l'idéologie économique depuis le XVIIIe siècle. Donc il a fait ce qu'on appelle de l'anthropologie inversé, c'est-à-dire se mettant à regarder sa propre société avec un regard d'anthropologue. Ce qui peut donner des surprises. Hein. J'ai des amis anthropologues qui m'ont, je fais une petite incidente, raconté ça, avoir emmené leurs informateurs du Vanuatu passer 8 jours à San Francisco en leur donnant un carnet de notes, bien qu'ils ne sachent pas écrire, mais ils peuvent dessiner et un appareil photo, et ensuite de retour au Vanuatu. Ils ont fait un rapport dans les îles très lointaines et que nous jugeons fort primitives, enfin, très proches de l'âge de pierre. Et la chose qui les avait le plus frappé dans ces deux choses sur le San Francisco des années 90, première chose, il y a des êtres humains qui vivent et qui n'ont pas de hutte. Et ils avaient rempli des cahiers en faisant une barre à chaque fois qu'ils en croisaient un, et il y avait des pages entières. Et alors, les gens ne comprenaient pas. C'était comme un rapport devant l'Académie des sciences sur les populations qu'ils étaient allés voir. Et la deux choses, en disant, en fait, ils ont eux aussi, ils vivent dans des lianes, mais ils appellent ça l'argent. Je trouvais que c'était une très jolie formule. Donc, Dumont est quelqu'un qui a utilisé, en fait, cette méthode à partir de sa culture d'indianiste, de faire retour sur cette exception, en fait, qu'a été la culture occidentale fondée sur le principe d'égalité. Alors, je vais vous dire quelques mots de ce qu'il étudie dans son Homo Hierarchicus, c'est-à-dire un système de caste. Officiellement, nous allons le voir, ce système de caste a été aboli dans les texte de l'Inde moderne, mais il en est resté quelque chose sur lequel on va revenir, qui est très important parce que c'est dans la constitution indienne qu'apparaît pour la première fois l'idée de discrimination positive qui va être promise ensuite à un succès extraordinaire. Donc c'est un héritage du système des castes. Alors je vais aller à grands traits pour parler de l'Inde en supposant un certain nombre de choses connues, mais pas trop quand même, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça projette une image de la justice qui est vraiment aux antipodes de la nôtre. Image de la justice qui était étroitement liée à la division du travail. C'est, pense-t-on, la division du travail qui était à tout le moins à l'origine ou qui a joué un rôle important dans l'apparition et l'ossification de ce qu'on appelle le système des castes. Ce système, c'est celui d'un ordre social fondé sur une stricte hiérarchie de positions sociales qui correspondent à autant de fonctions dans la société. Alors, le mot caste est un mot d'origine portugaise. Casta, ça veut dire pur, non mélangé. Et alors, c'est un mot un peu piège pour quand on cherche à le manipuler, parce qu'il recouvre deux notions qu'il faut en fait distinguer, même si elles sont étroitement liées. D'abord, la notion sanscrite de varna, ça s'écrit V-A-R-N-A, qui étymologiquement signifiait la couleur. Alors, cette notion de varna répartit tous les hommes selon leur fonction sociale. Et puis, il y a une autre notion, la notion de jati, J-A-T-I, étymologie, ça veut dire la naissance, qui les répartit selon leur hérédité. Donc, on a une définition plutôt fonctionnelle qui divise les hommes en, on va le voir, un certain nombre de catégories, limitées, en fait, 4 ou 6 selon la façon dont on compte. Et puis, il y a d'autre côté, avec les jatis, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de lien du sang, une définition d'un jus sanguinis, qui répartit les hommes selon leur hérédité. La première notion, la notion de varna, est d'ordre philosophique et religieux, tandis que la seconde désigne des pratiques normatives. Et les deux s'interpénètrent. Vous allez voir que ça a été un des problèmes qu'ont eu les constituants de l'Inde moderne, de démêler ces choses-là. Alors, commençons par l'idée des varnas, c'est le plus simple, parce que les jatis, c'est tout le livre de Dumont, c'est d'une complexité effarante. Les varnas, c'est plus simple. Cette organisation varna procède des textes classiques de la culture sanscrite, et je suppose que vous en avez un petit parfum. Elle distingue 4 varnas, qui sont les brahmanes, qui sont les prêtres enseignants lettrés, les kshatriyas, qui c'est plutôt la fonction militaire et politique, les vaishyas, c'est la fonction de production économique, et shudras, c'est les serviteurs. Et ces 4 varnas font système, parce que ces différents éléments se définissent terme à terme. Ainsi, par exemple, les shudras sont les serviteurs des 3 autres catégories, Donc les trois autres se définissent par opposition aux serviteurs. Mais ces trois autres, les trois premières catégories, regroupent ceux qu'on appelle les deux fois nés, c'est-à-dire ceux qui sont nés non seulement à la vie biologique, mais aussi à la vie religieuse. Et donc seulement ceux-là peuvent sacrifier aux dieux. Seulement les trois premières catégories, pas les Shudras. Mais les Vaishyas qui produisent les richesses économiques, notamment celles nécessaires au sacrifice, ont un pouvoir sur les animaux, mais ils n'ont pas la domination sur toutes les créatures. Ça, c'est le privilège des deux premières catégories, les Brahmanes et les Kshatriyas. Et ces derniers, les Kshatriyas, exercent un pouvoir temporel, mais n'ont aucune fonction sacerdotale, celle-ci étant l'apanage des Brahmanes. On pourrait dire, alors vraiment avec des horreurs en réalité, par des rapprochements trop violents, mais enfin que ça fait penser l'empereur, le pape, c'est-à-dire il y a le pouvoir temporel d'un côté, puis une autorité morale de l'autre. Donc les quatre varnas font système dans cette pensée religieuse, si vous voulez, ou dans cette philosophie, ou dans cette anthropologie. La société tout entière est dès lors représentée. Alors, il y a deux autres catégories sur lesquelles je vais revenir, je les ai mentionnées là pour que vous les notiez dans un coin, je vais vous expliquer après ce que c'est. Et ce système est représenté comme un corps humain dont les brahmanes seraient la tête, d'ailleurs plus exactement le souffle, les kshatriyas les bras, et qui sont nombreux, comme vous le savez, il n'y en a pas que deux, les vaishyas, des cuisses solides, pas celles de Jadi Longo, mais enfin des cuisses de cyclistes hein, et de sportifs, et les shudras, les pieds. C'est une situation plus modeste, mais non moins nécessaire. Il suffit d'avoir un caillou dans sa chaussure pour s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est que ça forme un tout qui se suffit à lui-même, où chacun à sa place doit respecter sa place et respecter la place des autres, on sait spontanément où on est. Ça c'est un ordre hiérarchique typique. Alors, à ces quatre catégories s'ajoutent ceux qu'on appelle les Dalits, que j'ai mis sous les pieds des Shudras, là, dans mon dessin, qui sont ceux qu'on appelle les Orcastes, ou les Parias, et qui sont assignés aux tâches considérées comme impures. Par exemple, l'écarissage, le traitement des cadavres, des ordures, etc. C'est pourquoi ils sont dits intouchables ou parias. Enfin, le mot employé en Inde, c'est les Dalits. Donc ceux-là, ils sont hors système. Enfin, ils sont hors système dans cette vie-là. On va y venir, parce qu'après, dans le cycle des vies, ils peuvent réintégrer le système, s'ils se comportent bien. L'autre catégorie qui est hors système, c'est les sannyasins, les renonçants. Alors, ceux-là, c'est une catégorie très intéressante parce que ce sont des gens qui sortent volontairement du système. Donc, c'est une posture religieuse, disons, l'équivalent, c'est quelqu'un qui fait des vœux et qui part dans un ermitage. L'équivalent chrétien. Ou dans un monastère. Là, ils partent individuellement. Donc ils en sortent volontairement, mais pour mener une vie mystique et ascétique, totalement détachée des biens de ce monde et entièrement vouée à la quête spirituelle. Donc au départ, on disait ils sont vêtus de vent, ça voulait dire qu'ils circulent tout nus, avec un petit pol pour demander l'aumône, et ils vivent d'exercices spirituels dont certains sont assez sportifs. Je vais vous en montrer un exemple à l'image tout à l'heure. Donc, on prononce des vœux, et une fois ces vœux prononcés, alors selon un rituel vraiment de type monastique, eh bien, on s'en va sur la route, vêtu d'espace, donc, comme je l'ai dit, mais en pratique tout de même d'un pagne et d'une robe orange, et on vit de mendicité. Et le renoncement vise à gagner quelque chose qui est le bien le plus précieux cherché dans ce système de croyance, c'est à échapper au cours indéfini des renaissances. Imaginez que vous deviez revenir 18 000 fois à suivre les cours au Collège de France, cette seule idée vous donnerait la nausée, et vous pourriez partir sur les chemins comme le font donc les renonçants. Donc vous en avez un à gauche, là, dans sa robe orange, avec son bol, son bâton pour marcher, le texte des Védas, et à droite, vous en avez un qui est un très bel exercice de yoga, donc d'apprentissage, de maîtrise de son corps et de contrôle du souffle. Et donc tout être humain peut ainsi sortir du système des castes. Et, du point de vue juridique, le renoncement correspond à une mort civile. La femme est veuve, son héritage est réparti, et une fois émancipé des valeurs mondaines, le renonçant s'affirme comme un individu. Alors ça, c'est un point sur lequel Louis Dumont insiste beaucoup. Il dit la figure de l'individu dans ce système de caste qui ne fait aucune place à la volonté individuelle, puisque vous êtes assigné à une position ou une autre, eh bien la figure de l'individu, elle se loge dans cette pratique du renoncement. Mais, observe Dumont, c'est une image inversée de l'individualisme occidental. En effet, là où l'Occident pense le monde social comme une association d'individus, vous savez que ça a été un grand classique chez les philosophes en disant qu'est-ce qu'on fait, les premiers hommes, ils étaient là à gambader, alors selon les uns ils s'aimaient, selon les autres ils se massacraient, mais en tout cas finalement on a fait un contrat social. Bon. Eh bien, là où l'Occident pense le monde social comme une association d'individus, l'Inde ne conçoit d'individus qu'hors du monde. C'est une différence considérable. Alors, tous les membres d'un même varna, des quatre, là, ceux qui sont dans le cercle, sont soumis à la même loi personnelle, c'est-à-dire aux mêmes droits et obligations. Cette notion de droit et obligation, c'est la notion de soi dharma. Alors, dharma, vous savez l'écrire, et soi, c'est pas SOI, c'est SVA. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, on va y revenir. En effet, la notion de dharma a des liens avec la notion de droit ou de loi, mais à cette différence près que son contenu varie selon les stades de la vie humaine. Ce n'est pas la même loi qui s'applique à vous dans ces différents stades. Et la vie humaine se déroule selon quatre stades aussi, qu'on appelle les ashramas. Et idéalement, ces quatre stades vous conduisent de l'apprentissage de la jeunesse jusqu'à la préparation à la mort. Le quatrième stade étant justement le renoncement. Mais ça, tout le monde ne le fait pas en fin de vie. Mais normalement, c'est la voie de sortie idéale, puisque vous allez sortir définitivement, sans esprit de retour, dans le cycle des réincarnations. Donc ces quatre stades, les ashramas, sont donc apprentissage, âge des responsabilités professionnelles et familiales, donc c'est le bon père de famille du code civil, l'âge de la retraite, où on commence à essayer de devenir sage après avoir rempli ses fonctions sociales, on est quitte de ses devoirs vis-à-vis de la société. On retrouve ça dans d'autres civilisations. Vous avez chez Empateba, le grand anthropologue malien, il explique ça, que la vie est composée d'une série de cycles de 3 fois 7 ans. Alors ça fait 21 plus 21. Alors d'abord c'est plutôt l'enfance, les premières initiations. Ensuite on se forme, on apprend. Et à partir de 42, on doit rendre. Jusqu'à 63. Il faut rendre ce qu'on vous a donné. Puis à partir de 63, dit Empateba, on a le droit de se taire. C'est ce que je me dis que je ne... Mais on a le droit de parler encore, mais seulement si on veut. Enfin, on n'a plus à rendre. C'est ça l'idée. Donc, cette idée de cycle n'est pas propre à l'Inde. Hein. Vous le comprenez bien. Mais ce qui est propre à l'Inde, c'est l'idée d'une loi, d'un soi dharma, donc d'un dharma dont le contenu évolue en fonction du stade de la vie où vous trouvez. Alors, tant que vous êtes dans le monde, votre devoir d'être humain, c'est de remplir scrupuleusement la fonction qui vous a été assignée et de vous conformer aux règles, donc au soi dharma, propres à votre varna, d'une part, et à votre avancement dans le cycle vital, d'autre part. Parce que, évidemment, le dharma varie aussi selon le varna. Et ce rôle qui vous échoit aujourd'hui sur la scène du monde, c'est là que la notion de justice réapparaît. Il n'intervient pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que vous allez naître serviteur ou même d'élite. Ce rôle résulte de la façon dont vous avez rempli celui qui vous avait été imparti dans des vies antérieures. dont vous n'avez pas le souvenir. Mais ce rapport à la vie antérieure est l'équivalent dans cette pensée indienne de ce qu'a été pour nous la psychanalyse. C'est-à-dire il y a un fond obscur qui nous échappe, mais qui est déterminant de ce que nous vivons. Et de même, la façon dont vous remplissez aujourd'hui votre rôle, celui qui vous a été signé, déterminera celui que vous serez appelé à jouer dans des vies ultérieures. Les textes en montrent beaucoup d'exemples, vous êtes né prostitué, alors c'est évidemment pas très haut dans l'échelle des... vous devez accomplir convenablement votre travail de prostituée de votre mieux, etc. Et ce faisant, vous êtes quitte avec le Varna et vous avez toute chance dans le cycle suivant de Vital de vous trouver dans une position meilleure. Évidemment, ça marche dans l'autre sens. La justice, si vous ne remplissez pas bien votre job, vous allez renaître éventuellement sous l'état de chien même ou de chat. Enfin, je ne sais pas ce qui est le pire des deux. La juste rétribution des actes, ce qu'on appelle le karma, le cycle des causes et des conséquences des actions des êtres animés, ne se conçoit donc que dans le cadre de la transmigration. Ça, c'est un point très important, où on retrouve l'idée que la justice n'est pas de ce monde, que les comptes seront réglés le jour du jugement, ça existe dans la conception chrétienne. Là, il y a l'équivalent, c'est qu'il y a une sorte de redistribution des fonctions qui est liée à la façon dont on s'est bien ou mal comporté. Alors vous voyez que dans un tel ordre social, les inégalités de conditions ne sont pas du tout perçues comme une injustice. Car l'injustice consiste à respecter cet ordre immuable. C'est ce qui fait qu'on arrive en Inde, on est quand même très surpris de la façon dont sont traités des gens de conditions modestes. Enfin, traités, il faudrait mieux dire, très maltraités. Mais chacun a sa place, c'est conforme au mérite que vous avez acquis. Et chacun a la possibilité de mériter une place supérieure dans une vie ultérieure. Donc on est dans un ordre juste. Alors, je m'arrête un instant parce que c'est important pour la question juridique. Sur le substantif sanskrit, le mot dharma, je l'entends ici dans le sens indien parce que dans le monde bouddhique, ça serait autre chose. Le mot dharma vient de la racine dhr, qui veut dire tenir, porter, transférer, du latin ferro, qui a donné ferri en anglais, qui signifie ce qui tient ensemble, ce qui supporte, ce qui soutient. Et donc, le domaine du dharma est plus vaste que celui de ce que nous appelons la loi, au sens juridique ou scientifique du mot, car, je le répète, il définit les règles propres à la vie de chaque être animé. On en a une très belle définition dans ce texte de Heinrich Zimmer, dont je saurais trop recommander la lecture parce que c'est une merveilleuse introduction aux philosophies de l'Inde. Il écrit ceci: le mot dharma n'implique pas seulement une loi universelle grâce à quoi le cosmos est gouverné et soutenu, mais aussi ce que nous on aurait appelé les lois naturelles, lois divines, ou les lois scientifiques aujourd'hui, mais des lois particulières, des inflexions de la loi naturelle à toute espèce particulière, à toute modification dans l'existence. La hiérarchie, la spécialisation, la partialité, les obligations traditionnelles sont ainsi dans l'essence du système. Mais il n'y a pas de lutte des classes, on ne peut en effet s'efforcer à être autre chose que ce qu'on est. On est sat ou on n'est pas asat, et notre dharma est la manifestation dans le temps de ce que nous sommes. Le dharma est la justice idéale rendue vivante. Tout homme, tout objet sans son dharma est une absurdité. Il y a des métiers purs ou impurs, mais tous participent du pouvoir sacré. C'est pourquoi la vertu est coextensive à la perfection dans le rôle qu'on joue. Bon, donc il faut comprendre, donc, profondément, cette culture, c'est ça. Sur le théâtre de la comédie humaine, se répète indéfiniment la même scène, avec les mêmes passions, les mêmes déceptions, les mêmes trahisons. On vous a assigné un rôle principal, un rôle secondaire, un rôle vraiment médiocre. Vous devez jouer votre rôle sur la scène. Et puis, disparaître. Et puis, la représentation suivante, vous aurez peut-être un rôle différent. Et votre espoir, c'est de sortir de cette répétition indéfinie, de ce spectacle qui finit par C'est ça le salut. Hein, l'économie du salut, c'est de sortir de ce cycle. Alors, ce que je viens de décrire là, c'est la théorie des Varna dans sa pureté, j'allais dire, philosophique et religieuse. Dans la pratique sociale, les choses sont beaucoup plus compliquées car chaque Varna est subdivisé en un très grand nombre de sous-catégories appelées jati, donc J-A-T-I-S, étymologiquement ça veut dire la naissance, qui sont les véritables castes au sens anthropologique du terme. Vous voyez, quand il y a le mot de caste, il faut distinguer ce sens philosophique et religieux, c'est les Varna, et le sens anthropologique, c'est les jati, qui sont, il y en a des milliers. Et chaque jati forme un groupe plus ou moins endogame et qui a ses propres règles alimentaires. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on reçoit des Indiens. Aujourd'hui encore, c'est, dès qu'il s'agit de la table, c'est très très compliqué. La commensalité, c'est une horrible, comment compliqué. Alors, cette limite à la commensalité continue d'imprégner fortement les modes de vie en Inde. Comme le suggère un film récent, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sinon je vous le recommande, il s'appelle Lunchbox. Alors, c'est une très belle histoire avec de merveilleux acteurs. Cette jeune femme n'est pas très heureuse en ménage, mais alors sa tâche, on est dans les sociétés traditionnelles, tout ça n'est politiquement très incorrect, mais elle prépare chaque jour un plat pour son mari qui travaille à l'autre bout de Bombay. Et on découvre à travers ce film l'existence contemporaine, aujourd'hui, aujourd'hui en ce moment même. Donc il y a un système très compliqué qui permet d'aller prendre dans des boîtes, donc dans les lunchbox que vous voyez sur l'image, dans la famille, et de transporter ça au travers des métros, de coursiers, de scooters, pour l'apporter aux travailleurs sur son lieu de travail, dans son usine, dans son bureau, etc. Et c'est un système extrêmement complexe, il ne faut pas que les boîtes se perdent, il ne faut pas qu'elles se mélangent, surtout puisque la nourriture, les règles alimentaires varient selon votre... Donc c'est la catastrophe totale si on vous donne à manger, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous et préparé par des mains impures, éventuellement. Donc c'est ce qui arrive dans le film, c'est-à-dire il y a une boîte qui arrive là où elle ne devrait pas arriver, donc je vous laisse découvrir la suite, mais ce qui est très étonnant, c'est de voir que ces interdits alimentaires et ces règles continuent prospérer aujourd'hui et donne lieu donc à cette organisation qui, à nos yeux, n'a aucun sens, cette circulation chaque jour de millions de lunchbox au travers Bombay. Donc, chaque jati, il y a endogamie, règles alimentaires. Et la question des castes s'est donc posée à l'évidence aux acteurs de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Et la façon de la traiter a donné lieu à un conflit tout à fait fondateur du point de vue de la constitution indienne entre, d'une part, Gandhi, le grand Gandhi, que vous connaissez certainement de nom, mais on a déjà évoqué sa figure, et d'autre part, une autre grande figure de l'indépendance de l'Inde, moins connue, qui est, en Inde, extrêmement connue, qui s'appelle Ambedkar. Et Ambedkar était parmi les dirigeants du mouvement de résistance nationale et de libération nationale, celui qui venait des Dalits. Donc c'était un intouchable. Donc il en a bavé quand même pas mal dans ce milieu avec ses camarades de combat. Et c'était un brillant avocat formé aux meilleures universités anglaises et américaines. Et donc il a été le chef de file des Dalits dans le mouvement de libération de l'Inde. Et la question qui s'est posée, c'était de savoir quelle allait être la représentation. Est-ce qu'il fallait une représentation spécifique des Dalits ou bien est-ce qu'on partait d'entrée de jeu sur l'idée d'une égalité formelle? Alors, Ambedkar, qui, je le répète, a eu beaucoup à souffrir de cette situation intouchable, condamnait radicalement l'hindouisme et du reste, il s'est converti au bouddhisme à la fin de sa vie, en invitant tous les Dalits à en faire autant. Son souci, c'était, il y avait la libération nationale, mais il y avait aussi l'émancipation des Dalits de la condition misérable qui était la leur. Et il avait obtenu en 1932 du colonisateur anglais le principe d'une représentation séparée pour les Dalits. Disons, ils font l'objet de discrimination. On ne pourra pas en sortir, si vous voulez, c'est le raisonnement qui allait devenir ensuite les raisonnements de discrimination positive. Si on laisse faire la nature, on ne pense jamais qu'une femme pourrait avoir une position importante. Bon, donc il faut donner un coup de pouce en disant il faut qu'il y ait un certain nombre de femmes, voire autant de femmes que d'hommes, etc. Bon. Donc il était sur cette raisonnement. Si l'on veut que dans l'Inde, plus tard, quand elle acquérera son indépendance, les Dalits aient une égale dignité, il faut d'ores et déjà prévoir qu'ils puissent avoir leur propre représentation, sinon ils vont être écrasés par ceux qui les écrasent depuis toujours. Bon. Cette idée d'une représentation séparée a suscité une hostilité très forte de Gandhi, qui non seulement... Il était en prison, et non seulement il a fait savoir qu'il a trouvé que c'était une très mauvaise idée, mais il a entamé un jeûne à mort. C'était son je n'allais pas dire son habitude, mais enfin, il l'a fait à plusieurs fois dans sa vie. Il dit, bon, j'arrête de me nourrir, et si je meurs, ça sera de votre faute. Bon. Et il, vous avez bien vu, il n'était pas très gras, il allait au bout de son propos. Donc, Ambedkar a dû céder, et un accord a été signé à Pune, en 1932, entre les deux parties, qui consistait à réserver des sièges aux Dalits, mais dans une représentation qui demeurait une représentation commune. Et cet accord est très important pour l'histoire moderne du droit, car c'est lui qui est à l'origine de la technique de la discrimination positive. Donc on va avoir un certain nombre de sièges réservés aux Dalits dans le système de représentation. Alors Gandhi, lui, il était issu d'une famille Vaishya, donc de commerçants, il était avocat, vous savez. Et il condamnait lui aussi l'intouchabilité. Mais selon lui, c'était simplement une perversion du système des Varnas. Et en revanche, il défendait le système des Varnas. Pour lui, la justice, c'était de revenir à la signification originale, philosophique et religieuse des Varnas. Mais d'éliminer les jatis, tout ce système d'interdit, ça, il le condamnait. Et pour lui, il fallait revenir à la pureté du système des Varnas pour poser les bases de la justice dans l'Inde nouvelle. Ce qui conduisait à défendre une conception de la division du travail qui, au fond, est assez proche que celle que nous avons rencontrée chez Platon. Voilà ce qu'il dit dans un discours qu'il prononce en 1937. Chacun de nous a des occupations qui lui sont propres. Ces occupations ne sont pas des castes, elles sont ce que l'hindouisme désigne sous le nom de Varna. Varna qui n'a rien de commun avec la caste, alors quand il parle de caste, c'est Jati, hein, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les castes sont une institution humaine, tout juste bonne à être détruite, mais Varna est une loi divine. Nous pouvons la négliger, subir les conséquences de cette attitude, mais si nous l'observons, nous en tirerons profit. Alors là, on arrive au point important. Un menuisier, un forgeron, un maçon, un balayeur, un professeur, un soldat ont chacun des occupations différentes, mais aucun d'eux n'est supérieur ou inférieur aux autres. Si nous commençons à empiéter les uns sur les autres, nous créons une confusion de tous les varnas. C'est pourquoi, dès que vous enlevez à la loi de Varna les cuisants sentiments d'infériorité qu'on y a mis, non seulement elle agit comme loi, mais encore elle fournit une occasion de faire ce pour quoi nous avons le plus d'aptitude. C'est vraiment très frappant de voir la similarité de ce texte avec celui de Platon que nous avons étudié, où il dit... Excusez-moi, c'est que j'avais oublié ma montre, alors j'ai mis ça pour me rappeler l'heure, parce que je vois, moi, dans les inégalités, je ne vois absolument pas la pendule qui est en face de moi. Donc il s'agissait de... Platon, il dit un ordre juste, c'est celui où chacun... il faut éviter les touche-à-tout, vous vous souvenez de l'expression. Il faut que chacun fasse ce pour quoi il est le plus apte. Eh bien, on retrouve ça chez Gandhi, mais qui donne évidemment un tour plus ouvert et démocratique à la théorie des Varnas. Chacun doit s'attacher à la tâche qui convient le mieux à ses aptitudes, mais toutes ces tâches sont d'égale valeur. C'est-à-dire, il faut évacuer tout ce qui était le sentiment d'infériorité. Et la division du travail demeure la clé d'un ordre juste, mais elle ne résulte pas, selon Gandhi, de l'appartenance à une caste au sens de jati, et n'emporte pas une hiérarchie de la valeur des personnes. Cela dit, notez tout de même que Gandhi demeurait fondamentalement un conservateur, donc attaché à la loi qu'on appelle le Varnashrama Dharma, c'est-à-dire la loi des quatre Varnas, et de son modèle organiciste de la société. Et de même que des traits physiques se transmettent de génération en génération, de même, selon lui, on hériterait des aptitudes professionnelles de ses parents. On peut être professeur de droit de père en fils. Suivre ce destin professionnel permettrait à chacun de se consacrer au progrès spirituel au lieu de s'engager dans une compétition pour conquérir une meilleure place en ce monde. Vous voyez l'idée. Puisque les dés sont jetés, vous avez une position d'origine, vous allez être un bon menuisier, bon, bah, c'est très bien, vous êtes un bon menuisier, vous pouvez vous penser à autre chose que de la compétition pour être le plus gros menuisier du pays, puis ensuite devenir un autre. Bon. Donc c'est l'idée, on laisse faire cette vie économique. L'important, c'est quand même le développement de la vie spirituelle des êtres humains. C'est comme ça que Gandhi voit les choses. C'était pas exempt quand même d'un certain fatum génétique, puisqu'il écrit « Je considère le Varnashrama comme une saine division du travail fondée sur la naissance. » C'est pas très... On comprend qu'Ambedkar ait eu tendance à ruer dans les brancards. Alors, pour faire partager cette croyance, il suffirait de se convaincre que dans le corps social, les pieds valent autant que la tête. Voilà, c'est simple. Autrement dit, de nettoyer le système des varnas, ses dimensions hiérarchiques, pour n'en retenir qu'une répartition naturelle, entre guillemets, et égalitaire des fonctions sociales. Et c'était faire preuve, sans doute, de beaucoup d'irénisme que de penser possible de conserver la différence des statuts tout en consacrant l'égalité des individus. Toujours est-il que ce conflit entre Gandhi et Ambedkar a débouché sur, sur des dispositions qui figurent dans la Constitution indienne. Il faut savoir que ce conflit a été si fondateur que lorsque l'indépendance a été acquise, Gandhi, qui avait toujours le souci de ne pas écraser ce qu'avaient été ses adversaires, et par son autorité morale, a demandé à ce que ce soit Ambedkar qui préside la constituante. Donc la constitution indienne, qui est en vigueur, c'est la plus longue du monde, ils sont très fiers, les Indiens. D'ailleurs, il faudrait convaincre, je vais essayer de m'y employer, parce que j'ai constaté qu'il n'y a aucune traduction en langue française de cette constitution, même sur le site de l'ambassade de l'Inde. Mais c'est sous l'égide d'Ambedkar que cette constitution a été rédigée, et cette constitution commence par abolir le statut d'intouchable. Donc, l'intouchabilité est abolie et sa pratique dans toutes ses formes est interdite. L'application de toute incapacité trouvant sa source dans l'intouchabilité sera un délit punissable selon la loi. Et on commence par poser un principe d'égalité formel. Les articles suivants, sur lesquels nous reviendrons la semaine prochaine, parce qu'ils sont un peu longs, je n'ai pas le temps de commencer là, interdisent toute discrimination fondée sur la religion. Mais nous le verrons, la Constitution aussi tient compte du fait, des soucis d'Ambedkar, que si on se contente d'affirmer une égalité formelle, le risque était pour l'Inde indépendante de voir se maintenir le système d'oppression hiérarchique. Donc, on a introduit dans cette Constitution un certain nombre de dispositions qui visait à donner des droits spéciaux à ceux qui étaient égaux. Donc on a là la première apparition d'un débat qui sont très contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire comment on combine, on articule égalité concrète et égalité formelle. Par quel type de dispositif on arrive à faire en sorte qu'on sorte des catégories de la population de pratiques discriminatoires. Enfin, je vous propose d'y revenir donc la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon appétit si votre lunchbox vous attend.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.